Histoire de s'adapter, épisode 1. Chaud devant, s'adapter aux températures extrêmes en Hauts-de-France.
Je m'appelle Camille, j'ai 30 ans et j'habite à un petit village du nord de la France. Dans l'épisode précédent, j'ai décidé de comprendre et d'aller rencontrer celles et ceux qui s'adaptent et qui dessinent des territoires plus résilients face aux risques climatiques. Mes dernières rencontres m'ont donné envie d'approfondir les différents impacts du changement climatique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des températures extrêmes. Je vais vous parler d'un adage plein de vérité, il n'y a plus de saison. J'ai toujours raffolé de miel. Depuis l'époque où j'allais petit déjeuner chez mes grands-parents à grands coups de tartines de beurre et de miel, ce goût me réconforte. Pourtant, depuis quelques temps, Myriam, à qui j'achète du miel sur le marché, est inquiète. Avec la canicule de cet été, sa production a chuté et ça menace son activité. Au-dessus de 32 degrés, les abeilles passent plus de temps à chercher de l'eau et à climatiser leurs ruches à grands coups d'ailes qu'à produire du miel, pour éviter que la cire ne fonde et que les larves ne meurent. Est-ce que demain, donc, le goût du miel ne sera qu'un souvenir que l'on raconte aux enfants? Est-ce que demain, comme les abeilles de Myriam, tous nos efforts estivaux seront tournés vers un seul objectif, se rafraîchir pour survivre à l'été? Je rencontre Dominique Poissonnier dans son bureau à Lille.
Bienvenue.
La température moyenne dans les Hauts-de-France, elle a augmenté de 1,8 degré.
Dominique est prévisionniste chez Météo France.
C'est plus que la moyenne mondiale, puisque entre 1850-1900 et 2011-2020, la température mondiale a augmenté de 1,1 degré seulement. Le réchauffement est inégal en fonction de la latitude. Les latitudes intertropicales se réchauffent, alors elles sont déjà plus chaudes que la moyenne mondiale actuellement, mais elles se réchauffent moins vite que le reste. Au niveau du pôle, ça se réchauffe très vite. Alors pour une raison très simple, c'est qu'il y a moins en moins de glace. Cette glace, elle avait un pouvoir d'albédo, c'est-à-dire qu'elle réfléchissait la lumière du soleil. S'il y a moins de glace, il y a moins de lumière du soleil qui réfléchit, donc il y a plus de lumière du soleil qui est absorbée, donc les températures s'élèvent plus fort. La France, on est entre les deux, entre l'équateur qui se réchauffe, mais pas si vite, et puis les pôles qui se réchauffent très vite. On est aussi dans une zone où on se réchauffe de façon intermédiaire. Et c'est vrai aussi entre le sud et le nord de la France, c'est-à-dire que plus on est au nord et plus on a tendance à se réchauffer vite. Et si on regarde en termes de températures extrêmes les plus fortes températures rencontrées, eh bien entre 61 et 70, la température la plus élevée jamais rencontrée, c'était 33 degrés à Lille. Un exemple, parce que je suis né à Lille, voilà. Si on regarde maintenant pour un petit Lillois 50 ans plus tard, qui est né entre 2011 et 2020, la température la plus élevée qu'il a rencontrée, c'est 41,5 degrés. Donc il y a une amplification là, une augmentation de 8,5 degrés des températures extrêmes, pour 1,8 degré de température moyenne. Il y a toujours une amplification des températures extrêmes. Et puis les 33 degrés de la décennie de ma jeunesse, c'est arrivé une fois seulement pendant 10 ans, et aujourd'hui, c'est un événement commun. C'est arrivé 33 fois pendant la décennie 2011-2020. C'est un événement ordinaire.
Je comprends les chiffres. Depuis quelque temps déjà, je m'y plonge, je les analyse, je les redoute. Pourtant, j'ai besoin de ressentir, de comprendre réellement ce que cela signifie. Plus que les chiffres que me donne Dominique, ce sont les gouttes de sueur que je sens perler à mon front qui me font ressentir le caractère anormal des 38 degrés de ce mercredi de juin. Concrètement, quel est l'impact aujourd'hui de ces chiffres sur notre société, sur les populations, et demain?
La canicule 2003, ça a été un événement très traumatisant pour tout le monde, et plus particulièrement pour le corps médical. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui allaient à l'hôpital et qui mouraient dans les hôpitaux malgré les soins apportés. La température moyenne sur la France, on avait atteint les 31 degrés. La durée, c'était une quinzaine de jours. Au niveau français, ça reste une canicule exceptionnelle, tant en durée qu'en intensité qu'en sévérité. Mais pour le Nord, par exemple, 2019 a été aussi intense, il a fait aussi chaud. Ça a duré moins longtemps, mais ça a été aussi très sévère. Donc cette canicule, ce qu'on estime à l'avenir, c'est que dans les 20-30 années qui viennent, ça restera un événement quand même très marquant. Ensuite, tout dépendra du scénario. Si on va vers un monde à 3 ou 4 degrés, la canicule de 2003, ça devient un événement complètement ordinaire. Ça devient même un été frais. Alors la tendance, vous savez qu'en 2015, les États ont fait des promesses en disant voilà ce que nous on peut faire. Les promesses ne nous mettent pas sur un scénario à 2 degrés, et encore moins un scénario à 1,5 degré. Avec les promesses faites par les États en 2015, on se dirige vers un monde entre 2,3 et 3,2 degrés. Et ça, c'était les promesses. Et si on regarde la réalité depuis 2015, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter année après année. Il y a eu la petite baisse du Covid en 2020, mais dès 2021, on a repris, et 2022, on a à nouveau un record absolu jamais rencontré d'émissions annuelles de gaz à effet de serre. Et donc, on se dirige vers un scénario plus là, vers les au moins les 3 degrés passés. Ça fait une France à 4 degrés en moyenne. Il est évident que plus on retarde le moment de prendre les décisions difficiles qui s'imposent, et plus on retarde le moment d'engager vigoureusement les actions, et plus ce sera difficile et douloureux de maintenir cet objectif de plus 2 ou plus 1,5 degré.
Ce qui est important à dire, c'est qu'il n'y a pas d'adaptation au changement climatique, mais il y a des réactions de la biodiversité, ce qui est très, très différent.
Yves Picot est maître de conférence à l'Université de Lille. Il travaille au quotidien sur les liens entre biodiversité et climat. Il est aussi élu à la ville de Douai.
Il y a deux réactions, on va dire, principales. La première, c'est un déplacement spatial. En gros, les espèces migrent vers le nord pour trouver des conditions climatiques qui leur sont toujours favorables. Les premiers articles scientifiques qui montrent des changements, des déplacements d'espèces, ça date des années 80. On a montré en Angleterre, par exemple, que les papillons étaient remontés de près de 200 km en latitude vers le nord de l'Angleterre. C'est montré également chez les poissons qui remontent comme ça vers le nord. On a également d'autres démonstrations. Alors ça, c'est un travail qui a fait quelqu'un de près de chez nous, là, à Amiens, Jonathan Lenoir, qui est chercheur CNRS, qui a montré qu'on avait des montées en altitude de certaines espèces végétales, les arbres, les plantes, qui remontaient déjà de plusieurs dizaines de mètres en altitude au cours du XXe siècle, toujours pour trouver des conditions climatiques qui leur sont favorables. Donc ça, c'est une première réaction. La deuxième réaction qu'on constate, c'est un déplacement temporel, c'est-à-dire un changement dans le calendrier d'activité de la faune et de la flore, avec par exemple des floraisons qui sont plus précoces, l'apparition des feuillages qui sont plus précoces, des changements dans les timings de migration des oiseaux. Ce genre de rythme-là est complètement bouleversé et anticipé. C'est ce qu'on appelle l'avancée du printemps. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe en Hauts-de-France. On a fait une étude récemment sur des petites prairies urbaines qui ont été semées sur la métropole européenne de Lille. Et on a fait le constat d'une avancée d'un mois sur les dates de floraison entre des prairies situées en centre-ville, dans des zones très minéralisées, et des prairies qui étaient situées dans des zones plus résidentielles, donc avec une densité de végétation plus importante. Et ça, on l'a mis directement en relation avec les phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Donc là, les changements de température, les températures élevées déclenchent des floraisons plus précoces. Les gels tardifs ou l'absence de gelée au cours de l'hiver, on sait que ça crée des déséquilibres importants. Les hivers froids ont un rôle de sélection des espèces. Il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent, qui meurent au cours de l'hiver. Ça permet de réduire, par exemple, la proportion de petits insectes phytophages qui consomment des végétaux, de petites limaces, etc. Et des hivers doux, ça permet la subsistance de ces espèces et donc un impact potentiel important sur le milieu agricole. Alors on pourrait se dire que finalement c'est pas très grave, tout ça c'est effectivement une translation géographique ou spatiale, mais en réalité toutes les espèces ne se déplacent pas à la même vitesse ou ne changent pas leur calendrier de la même manière. C'est donc finalement des espèces qui avant interagissaient et qui se retrouvent déconnectées dans l'espace ou dans le temps. Lorsqu'on a cette avancée en ville de la date de floraison des plantes, eh bien, par contre, les abeilles pollinisatrices continuent à sortir au niveau de leur date historique. Ce qui fait que les fleurs disposent de moins de pollinisateurs et les abeilles disposent de moins de ressources, moins de nectar, moins de pollen pour leur alimentation.
Si on prend l'exemple du chevreuil, c'est un animal qui met bas toujours à la même période. Ce qui déclenche la mise bas des fangs dans cette espèce-là, c'est la lumière et la durée du jour. Les jeunes fans naissent toujours autour du 16 mai en moyenne. Le problème, c'est que la végétation étant de plus en plus précoce, les bourgeons riches en protéines et en vitamines qui sont nécessaires à la chevrette pour faire du lait qui nourrit les fans, c'est décalé dans le temps et du coup, ils n'en ont plus assez. Et on se rend compte au fil du temps qui passe qu'il y a de moins en moins de fans qui survivent à la saison. Et donc, il y a même des gens qui s'interrogent sur la survie à long terme de l'espèce chevreuil chez nous.
Cette désynchronisation peut avoir des conséquences extrêmement importantes sur la biodiversité, engager la biodiversité dans un déclin important lié cette fois au phénomène climatique. Sur les 4 dernières décennies, on a une diminution du nombre d'oiseaux en Europe de 25%. On fait les mêmes constats en milieu marin, avec des déclins extrêmement importants des espèces ressources en particulier. Et on trouve également les mêmes problématiques sur les espèces végétales. Donc globalement, effectivement, il ne faut pas mentir sur le sujet, il y a un déclin très important des populations animales et végétales actuellement sur la planète. Il y a une synergie entre ces vagues de chaleur et puis l'amplification de certains phénomènes de pollution, par exemple. On sait aussi qu'il y a un effet des vagues de chaleur sur le potentiel allergène des pollens, par exemple. Il y a beaucoup d'autres conséquences. Il y a des conséquences directes en termes de santé, du mal-être, la difficulté à trouver le sommeil, etc. À la fois, la biodiversité subit les conséquences du changement climatique et en même temps, la biodiversité est une solution pour faire face au changement climatique. Et c'est d'ailleurs bien repris dans le dernier rapport du GIEC, on montre que on ne peut pas traiter indépendamment la problématique changement climatique et la problématique biodiversité et qu'il faut bien travailler de concert sur les deux sujets. Parce qu'effectivement, si la biodiversité s'effondre, eh bien, on va manquer de solutions aussi pour faire face au changement climatique.
Marie Gros partage ses constats. Depuis 3 ans, elle œuvre au sein de l'Office français de la biodiversité à la mise en place de solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature.
Le climat, c'est lui qui a façonné la vie sur Terre. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que la biodiversité participe aussi à façonner le climat de manière locale par l'évapotranspiration, par le fait de retenir l'humidité. On a vraiment une coévolution du climat avec les écosystèmes. Là, on est entré dans une sorte de cercle vicieux où finalement, le changement climatique constitue une pression sur les écosystèmes. C'est vraiment une pression supplémentaire qui vient s'ajouter à des pressions qui sont déjà largement existantes et qui sont d'origine anthropique. Le problème, c'est que la dégradation de la biodiversité, elle vient aussi accentuer le changement climatique. On parle beaucoup des puits de carbone, mais si on prend ne serait-ce que l'exemple des tourbières, une tourbière qui est en mauvais état va venir relarguer une quantité phénoménale de carbone. Donc ça a aussi un effet d'accentuation du changement climatique. On ne pourra pas lutter, tant en termes d'atténuation que d'adaptation, sans restaurer et préserver nos écosystèmes.
Selon Dominique, les canicules d'aujourd'hui sont les étés banals de demain. Selon Yves, la biodiversité subit de plein fouet le changement climatique et sa dégradation contribue à le renforcer. Comment faire alors pour limiter nos impacts sur la biodiversité ? Et s'assurer de ses services face au changement climatique.
L'idée, c'est de s'appuyer sur le bon fonctionnement des écosystèmes pour réduire localement les températures. Ça va en fait regrouper toutes les actions de préservation, de gestion, si possible durable, ou encore de restauration des écosystèmes.
Et concrètement, comment est-ce que ces solutions d'adaptation sont mises en place ?
En région, on a de plus en plus de projets de végétalisation de cours d'école qui peut être facile, entre guillemets, pour une collectivité dans le sens où elle a le foncier. C'est souvent des actions appréciées par les populations puisque ça permet d'améliorer le cadre de vie des enfants, de développer des projets pédagogiques autour de la cour, etc. On peut végétaliser les façades en plantant des plantes grimpantes en pleine terre. Ça va permettre de réduire le stockage de la chaleur dans les matériaux des bâtiments. D'autant qu'en région, on a de la brique. Donc la brique, ça stocke quand même pas mal de chaleur, même si ce n'est pas des surfaces noires, mais pour autant. Ça se fait de plus en plus de réouvrir des cours d'eau en centre-ville. Ça va aussi permettre de recréer un corridor de fraîcheur en centre-ville.
Un mot-clé qui, moi, me semble important, c'est la désimperméabilisation. C'est-à-dire qu'on a eu pendant de longues années une tendance à imperméabiliser, à gagner sur les sols agricoles, gagner sur les jardins, gagner sur les espaces naturels. Et aujourd'hui, il faut arrêter ça, et même peut-être faire machine arrière, c'est-à-dire commencer à restaurer des sols vivants. Parce que le sol vivant a déjà un premier intérêt, c'est qu'il est capable de fixer le carbone et donc jouer un rôle de compensation des émissions de carbone. Et ensuite, le sol vivant, ce n'est pas un sol qui va renvoyer de la chaleur, par exemple, qui va absorber de la chaleur et la garder pour lui. Et ensuite, sur un sol vivant, on va pouvoir planter des arbres. Et la végétalisation de la ville, c'est l'installation d'un climatiseur naturel qui peut être très efficace dans la mesure où on a vraiment une forte densité de végétation installée sur la ville.
C'est des solutions qui, si elles permettent de s'adapter au changement climatique, elles ont surtout des co-bénéfices en termes de biodiversité, en termes de cadre de vie, de bien-être, de santé. On a aussi des disparités sociales. On sait que les personnes qui sont les plus vulnérables, les enfants, les personnes enceintes, les personnes âgées, les personnes précaires qui ont accès à des logements peu isolés, vont être les premières victimes aussi de ces fortes chaleurs. Dans la région, on est quand même une région avec un taux de précarité et une fragilité sociale qui est particulièrement importante dans certains territoires. L'intérêt aussi, c'est que c'est des solutions qui sont sans regret. A priori, on regrettera jamais d'avoir fait une zone humide, dans le sens où ça pourra tamponner un minimum le risque climatique. Mais en plus de ça, on aura de fait un gain de biodiversité. On aura plein de retombées en fait pour le territoire. Ce qui ne va pas forcément être le cas d'une solution grise, où là on est vraiment dans la perspective de s'adapter uniquement au risque.
Ça me rassure de me dire qu'en fait les solutions existent déjà et qu'on a les clés en main pour s'adapter. Au fil des discussions, je comprends que l'adaptation ne peut pas et ne doit pas être uniquement une réaction aux changements observés et aux crises traversées. Faire face aux températures de demain, c'est bien plus large que de protéger son verger contre le gel tardif ou creuser une piscine individuelle pour se rafraîchir pendant l'été. L'adaptation à laquelle on doit se préparer est une transformation en profondeur. Elle exige de prendre soin des écosystèmes et de leur redonner une place centrale dans nos façons de vivre et d'aménager nos territoires. En bref, lutter contre les fortes chaleurs, c'est une affaire de biodiversité, pas de climatiseur. C'est une transformation de notre rapport à la nature et au monde. Et cela commence dès aujourd'hui. Et puis, en fait, l'adaptation, c'est aussi du positif parce que ça veut dire remettre la biodiversité au cœur de nos vies, de nos quotidiens, comme le dit Marie. C'est aussi un moyen de re-questionner l'occupation que l'on a des lieux publics, les écoles ou les espaces verts, par exemple. Ça pose aussi par ailleurs la question du temps, des horaires, et oui, peut-être que les ch'tis vivront demain à l'heure espagnole.
Je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis réaliste, on va dire. Je pense que dans tous les cas, on n'a pas le choix. On a obligation aujourd'hui d'adapter le territoire aux problématiques du changement climatique. À partir de là, je vais être optimiste. À partir du moment où on n'a pas le choix, il faut le faire.
Il faut se créer un espace où on cherche l'émerveillement. Et la biodiversité est vraiment source d'émerveillement, de sens. On parle aussi beaucoup aujourd'hui d'amnésie environnementale. Et en fait, ce qu'on préconise pour pouvoir se reconnecter à la nature, c'est d'aller vers des approches sensibles justement du vivant. C'est-à-dire que tous les usages de la nature où on va pouvoir toucher, où on va pouvoir sentir, en recréant une relation particulière avec le vivant, c'est source d'émerveillement. Qui dit source d'émerveillement dit envie de protéger et ça donne aussi beaucoup plus de sens à notre existence, moi je trouve.
Comme disait l'autre, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. Donc même si ça semble compliqué, il y a plein de gens qui baissent les bras parce qu'ils ont l'impression qu'il ne se passe rien, que ça va pas assez vite et en tout cas ça ne va pas dans le bon sens, plus on essaye et plus on a de chances de réussir. Je peux citer Antonio Guterres, « Ceux qui abandonnent sont sûrs de perdre ». La question c'est « on n'abandonne pas ». Enfin, la question se pose pas même, « on n'abandonne pas ».
Histoire de s'adapter, un récit lucide et immersif. Une narration positive et sensible, le podcast du CERD sur l'adaptation des territoires au changement climatique. Merci à Marie Gros, Yves Picot et Dominique Poissonnier. Dans le prochain épisode, nous aborderons la thématique de l'eau.
La sécheresse a un impact sur les milieux aquatiques qui est absolument énorme.
Nous commençons à connaître des tensions sur la ressource en eau d'un point de vue quantitatif.
S'adapter à cette nouvelle réalité hydrique, ça ne veut pas dire essayer d'adapter la réalité physique aux pratiques qu'on a actuellement.
Mais ça, c'est une autre histoire.